Témoignages, échanges, discussions au réseau Cogeco. Voici Dan Bigra.
Alors, la question que je vous pose, croyez-vous à un vaccin d'ici un an? C'est vite un an. Je vous rappelle que le vaccin qu'on a trouvé le plus rapidement, ça a été la rougeole, et ça a pris 4 ans. Mais là, la science est plus avancée, puis laissez-moi dire que les compagnies pharmaceutiques sont dans une course de fou, toute la gang. Ça travaille très, très, très fort. Il y a des gros profits au bout, là, s'ils trouvent ça. Alors, croyez-vous, à la lumière de tout ça, un vaccin d'ici un an? Alors, pour me parler, vous avez juste à m'appeler au 514-790-9850 ou, si vous êtes à l'extérieur de Montréal, au 1-866-790-9850. On va parler tout de suite avec M. Mark Hamilton, qui est microbiologiste et président de Eurofin, voyons, je vais le dire une fois, Eurofin Environex. Bonjour, M. Hamilton.
Oui, bonjour, M. Bigra.
Ça ne vous tentait pas de choisir un nom de compagnie plus facile à dire?
Et oui, effectivement. Les premières fois, on a des difficultés à nommer.
Comment vous le dites?
Eurofin. Ben, c'est Eurofin, mais il y a des gens qui disent Eurofin. Ben, oui. Eurofin, ça fait aussi.
Ben, fin ou fin, on est content. Et Environex. Ça fait quoi, votre compagnie, exactement?
Ben, nous, on est une compagnie qui est spécialisée dans plusieurs types de domaines d'analyse. On fait beaucoup d'analyses dans l'environnement. On fait des analyses agroalimentaires, santé pharmaceutique. Et aussi, on est impliqué beaucoup dans l'analyse du COVID, ben, pas tant sur les êtres humains, mais beaucoup sur les surfaces de contact, les eaux usées, l'air ambiant. Donc, on a développé des techniques pour déterminer la présence de COVID dans les facteurs beaucoup plus environnementaux.
Est-ce que vous croyez à un vaccin éventuellement?
Ben, écoutez, je pense que présentement, il y a 139 compagnies dans le monde qui se sont affichées comme étant des entreprises en recherche et développement pour découvrir le fameux vaccin contre la COVID. Donc, il y a plusieurs milliards de dollars qui est en route. C'est sûr que dans un an, c'est sûr qu'on regarde beaucoup, je suis beaucoup le fil de l'actualité, je lis beaucoup sur des articles scientifiques qui à tous les jours, à toutes les semaines, se mettent à jour. Et d'ici un an, oui, scientifiquement parlant, c'est possible au moment où on se parle que d'ici un an...
Parce qu'on s'entend que la compagnie pharmaceutique qui va trouver ça et qui va le faire breveter, aura pendant un an des avantages de centaines de milliards de dollars sur les autres. C'est énorme.
Absolument.
C'est la planète en entier, là.
Ben, ça laisse un gros défi, parce que les défis qui se posent présentement, c'est que sur les 139 entreprises pharmaceutiques qui fabriquent le vaccin, il n'y en a pas un qui travaille sur la même molécule, du moins le vaccin. Donc, il y a plusieurs types de vaccins qui sont à l'essai présentement. Donc, qui va remporter la palme? Et est-ce qu'il y aura 1, 2, 3 types de vaccins qui sera homologué, qui fait que, tout dépendant de quel pays il découvre le premier, mais il y en aura un qui va utiliser tel type de vaccin, d'autres types de vaccins. Et l'autre défi, M. Bigra, qui est le défi ultime que moi je crois, c'est comment est-ce qu'on va être en mesure de vacciner massivement toute la planète? Et ça, c'est bien beau de dire j'ai le vaccin, mais entre avoir l'antidote et de dire j'en produis suffisamment pour vacciner plusieurs milliards de personnes en un temps record, ça reste un défi qui fait que qu'est-ce qui fera en sorte que dans un an, on ne sera pas vacciné? C'est pas le fait qu'on n'a pas l'antidote, c'est comment est-ce qu'on va être en mesure de vacciner tout ce monde-là massivement.
Mais je vais vous dire quelque chose de cruel. Je crois que les sociétés qui ont plus d'argent vont payer, vont être vaccinées avant. J'en parlais avec Jean-Luc Mongrain tout à l'heure et on voyait par exemple la trithérapie pour les gens qui ont le HIV SIDA. Maintenant, on ne meurt plus de cette maladie-là parce qu'il y a la trithérapie. On vient handicaper, là, c'est difficile, c'est évident, mais on n'en meurt plus. Mais aller en Afrique, voir ceux qui ont accès à cette thérapie, il n'y en a à peu près pas là. Donc, c'est évident que ça va faire la même chose. Les compagnies pharmaceutiques vont aller là où il y a de l'argent.
Effectivement, c'est ça qui est l'enjeu, de dire qui aura le premier brevet. Donc, c'est sûr que si les États-Unis, on les connaît, sont très protectionnistes, ils vont dire, ben, avant de vacciner le Canada, avant de vacciner le reste du monde, on va vacciner les Américains. Et encore là, est-ce qu'il y aura une ségrégation, comme vous venez de vous dire, pays par pays, strate de population par strate de population? En tout cas, on sait que nous, au Canada, on ne vit pas de même. On est dans une société égalitaire. On n'aura pas ce problème ici. Mais il reste que ça reste l'enjeu de quel vaccin sera choisi, et comment est-ce qu'on se voit en mesure.
Oui, là-dessus, on blâme Trump, parce qu'évidemment, il n'en parle pas de façon extraordinaire, mais je juste vous rappeler que, selon mon souvenir, je ne veux pas blanchir Trump ici, mais les plus protectionnistes des gouvernements américains, ça a été les démocrates.
Absolument. Absolument. Donc, de gros défis à venir, autant d'une manière politique, d'une manière sociologique et d'une manière scientifique, dans les mois à venir. Donc là, présentement, on vit encore un peu dans l'inconnu parce que beaucoup d'études sont en cours. Mais si vous me posez la question, est-ce qu'il y aura un vaccin? Scientifiquement, je vous dirais oui. Est-ce qu'il sera efficace? Ça reste encore le gros point d'interrogation.
Oui, c'est la science et on cherche, il n'y a aucune garantie. C'est juste,
exactement.
C'est des impressions et en discutant, on va avoir plus de données, on va plus pouvoir se faire une tête, mais il n'y a personne qui va pouvoir affirmer oui ou non de façon claire. Il faut dire aussi que c'est cette course au vaccin, ça se passe surtout, généralement, en trois phases. T'as la phase 1 qui vise à évaluer la sécurité du produit. Évidemment, il faut commencer par ça. L'étape suivante, la phase 2, où on explore la question de l'efficacité du vaccin et puis on teste peut-être sur des animaux et tout ça. Et la phase 3, où là, on teste des humains, mais en masse, 30 000, 40 000. Il y a quelques sociétés, je pense qu'il y en a 3 ou 4, qui sont rendues en phase 3. Mais c'est tout. Tout le reste sont en phase 1 ou 2.
Exactement. Donc, vous l'avez bien résumé, hein? Phase 1, phase 2, c'est des phases qui passent relativement rapidement puisqu'on vérifie seulement les effets secondaires, l'immunogénicité qui est un peu... L'immunogénicité.
Oui.
Donc, autrement dit, c'est l'immunogénicité, grosso modo, c'est on regarde si le corps développe des anticorps. Autrement dit, est-ce qu'il y a une réponse immunitaire par rapport au vaccin? Donc, ça, c'est vérifié. Et la phase 3, ben, faut y aller vraiment en plus grande population, donc des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui auront un vaccin actif versus un placebo. Donc, il y a des gens qui vont être vaccinés avec un placebo, donc on shoot de l'eau, si on veut, là, qu'il n'y a rien dedans, et versus le vrai vaccin. Et la population, ben là, ça tombe bien parce qu'on vaccine des gens qui se doivent d'être dans un milieu exposé à la COVID. Donc, c'est sûr que de faire une phase 3 présentement, c'est le modèle idéal parce qu'on vaccine des gens et ils peuvent être exposés assez facilement à la COVID. Donc, on va pouvoir suivre plus facilement.
C'est plus vérifiable.
Exactement. On dit, regarde, j'ai été en contact avec des gens qui l'avaient. Est-ce que mon corps a développé des anticorps? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et c'est ce qui va aider à développer un vaccin plus rapidement parce que là, on est dans une population qui est à risque. Et la phase 3, on devrait avoir des résultats probants. Donc, le seul problème qu'il y a, M. Bigra, quand on fait une phase 3, on injecte le vaccin toujours entre des gens entre 18 et 55 ans, mais des gens en santé. Donc, des gens qui auront peu ou très peu d'effets secondaires par rapport au vaccin et qui devraient développer une bonne réponse immunitaire. Donc, c'est toujours dans le meilleur des mondes. Hein? Quand on fait une phase 1, phase 2, phase 3, on prend pas des gens qui sont immunosupprimés, on prend pas des gens qui sont cancéreux ou des gens qui ont des problèmes de santé, des gens en parfaite de santé. Donc, si ça fonctionne sur des parfaits de santé, ben on dit, OK, une personne en parfaite de santé va avoir une bonne réponse immunitaire. Mais qu'en est-il des personnes à risque, des personnes qui ont déjà des propositions pulmonaires, qui ont déjà combattu des maladies.
Oui, dont les plaquettes sont basses, par exemple. Excusez-moi, je parle des globules blancs. Ça, c'est des souvenirs de chimio. Le masque là, sur lequel on fait débat tout le temps, ben moi, je l'ai porté pendant que le chimio, je n'avais aucun problème avec ça. Mais je faisais mes spectacles, je rencontrais du monde. Il fallait que je fasse attention, que je sois prudent, parce que je n'étais pas protégé. Alors, les gens comme ça, qui sont à risque immunitaire, il y en a quand même pas mal. Alors, eux autres, ça sera différent. Peut-être qu'il va falloir trouver, c'est pas juste le dosage, mais des vaccins différents parce que, détrompez-moi, là, mais il me semble avoir deux tendances, c'est-à-dire les vaccins fabriqués. On fabrique un produit et les vaccins qu'on crée en modifiant des anticorps. Parce que celui-là, à date de ce que j'ai lu, il semble être efficace un petit bout de temps puis diminuer après. Donc, tu peux te faire vacciner puis un retour de la COVID après avec cette sorte de vaccin-là qui est fabriqué à partir d'anticorps.
Ben exactement. C'est deux domaines différents. Le vaccin, c'est pas vraiment un vaccin, c'est plus un traitement. Lorsqu'on injecte des anticorps, c'est exemple que je peux vous donner pour vulgariser. Quelqu'un qui a eu la COVID puis qui a passé au travers, qui a développé des anticorps face à la COVID, Donc, on va extraire, si on veut, son plasma, donc la partie d'anticorps qu'il y a eu dans son sang.
Oui.
On va purifier les anticorps et on va les injecter à une personne qui est porteuse de la maladie, qui en souffre, et lui donner une surdose d'anticorps spécifique à la maladie va aider cette personne-là à passer au travers. Et c'est ça,
OK, c'est plus un vaccin, là, c'est un traitement à ce moment-là.
C'est un traitement d'anticorps, et ça, c'est connu depuis très longtemps. Donc, ça fonctionne bien présentement. C'est sûr que la réponse immunitaire, donc les anticorps qu'on injecte à une personne, ça a une durée limitée. Donc, c'est sûr que ça peut durer un mois, deux mois, trois mois, mais ça ne durera pas des années. Contrairement à un vrai vaccin, où est-ce qu'on va développer nos propres anticorps face au virus. Donc, ce traitement-là est efficace pour tout le monde, parce que ça donne vraiment un break à votre système immunitaire et ça lui permet de passer au travers plus facilement, surtout pour les personnes immunosupprimées. Donc ça, c'est un traitement qui est déjà en vigueur, qui est déjà utilisé à large spectre, du moins dans les hôpitaux spécialisés, où est-ce qu'on peut avoir accès à des donneurs de gens, de donneurs d'anticorps, de gens qui ont déjà eu la COVID.
Je comprends. Ça, alors, pour ceux qui nous écoutent, il y en a qui sont au courant, il y en a d'autres qui sont moins. Je vais juste dire que nos anticorps, c'est les soldats qu'on envoie, notre corps envoie pour combattre un intrus, le tuer, le foutre dehors. Alors, quand on a une grippe, et c'est là ma question, M. Hamilton, quand par exemple, une grippe nous affecte, on envoie nos anticorps, puis si nos anticorps ont réussi à tuer le virus, ben si le virus revient, on va renvoyer automatiquement les mêmes anticorps parce que notre corps l'a reconnu, il le connaît. Le danger, c'est si le maudit COVID mute. Est-ce qu'il y a des chances qu'on fasse affaire à un COVID muté à l'intérieur d'un an?
Absolument. Et c'est le danger qui nous guette de COVID présentement, si on prend sa forme d'origine qui est partie en Chine en mois de décembre dernier versus ce qui circule aux États-Unis, au Brésil. Il y a déjà eu des petites mutations existantes déjà. Pas des mutations qui font en sorte que c'est un COVID numéro 2, là. Ça reste encore le COVID.
C'est-à-dire que notre système immunitaire qui l'aurait foutu dehors le reconnaîtrait et pourrait renvoyer les mêmes soldats.
Exact. Pour l'instant, on est encore dans une souche que notre système immunitaire pourrait reconnaître et donner des anticorps efficaces. Mais comme je vous dis, plus le virus évolue, plus le virus il se duplique d'humain en humain, plus on peut augmenter sa capacité à se muter et devenir encore un COVID ou un COVID-20 ou un COVID-21 là, qui va être différent et qui va falloir tout recommencer à l'armée de soldats. Et vous savez, l'organe de notre corps qui crée cette armée de soldats-là, donc toute infection virale, c'est un organe que très peu de gens connaissent qui s'appelle la rate. Donc, la rate que tout le monde a, la rate, si les gens ne savent pas à quoi ça sert, quand on dit « je me suis dilaté la rate quand je ris », ces choses-là,
oui.
Et la rate sert essentiellement à produire des anticorps pour combattre les virus. Fait quand on combat la COVID, c'est la rate qui est excessivement sollicitée à trouver le fameux anticorps et à développer l'immunité qu'on cherche.
La rate est le laboratoire dont les pharmacies se servent, c'est un peu ça. Mais dans notre corps, individuellement, c'est un peu ça. La rate fait les recherches, essaye de trouver c'est quoi, va l'attaquer, puis va essayer de le tuer.
Et c'est ça qui prend un certain temps. Quand on dit, parce que la rate, elle, de fabriquer ces anticorps-là, c'est pas instantané. Quand on dit que quand on a une grippe, ça va durer de 7 à 10 jours.
Donc, ouais. Pendant de 7 ça, c'est à tout le temps jours, qu'elle cherche.
Tout le temps. Elle cherche, elle développe, elle dit à son petit laboratoire, fais-moi de quoi pour tuer ce virus-là. Là, elle développe les anticorps et après 10 jours, puis encore là, 10 jours, 7 à 10 jours, on parle d'une personne qui est en santé, qui n'a pas de problème, qui a une rate que son système immunitaire est en santé, ça va prendre 10 jours. Donc, une personne en santé, c'est 7 à 10 jours. Mais une personne qui ne l'est pas, une personne qui est immunosupprimée, comme vous dites tantôt, qui est cancéreux, ou qui prend déjà des médicaments pour justement changer un peu les anticorps dans d'elle. Des fois, on va diminuer les anticorps, les augmenter, dépendant de quelle maladie qu'on combat. Mais la rate, des fois, est carrément inutilisée parce qu'on l'a dit de stopper. Et là, à ce moment-là, ces gens-là, c'est là qu'elle devient plus à risque
à avoir des maladies.
Exactement. Je pense que vous l'avez vécu. Mais c'est pour ça que des gens qui combattent des maladies, eux, se doivent de se protéger des autres parce qu'ils sont plus à risque à développer des maladies qu'ils attraperaient des autres.
Je comprends. Monsieur Hamilton, je vais vous garder avec moi. S'il y a des appels d'auditeurs à un moment donné, j'aimerais ça qu'on réponde ensemble. Tout à l'heure, je vais avoir un autre médecin en biochimie, puis j'aime bien les discussions à plusieurs. Fait que restez avec nous, raccrochez pas, et on vous revient au retour de la pause. Mais j'aimerais, au public, est-ce que vous croyez un vaccin d'ici un an ou deux? Est-ce que c'est possible selon vous? Vous avez juste à m'appeler au 514-790-9850 ou au 1-866-790-9850 et on continue la discussion après la pause.